faire face aux grands chocolatiers?
Il y a deux questions différentes. Est-ce que là c'est important? Oui. Est-ce que là est suffisant? J'en doute. Cela est important incontestablement parce que vous avez le papier, vous avez les deux plus gros producteurs. Et en réalité, ils sont capables, une fois unis, d'avoir un poids réel parce que sans matière première, il n'y a pas d'industrie de transformation. Et bien entendu, quand on regarde ce que le Botswana a fait jusqu'à faire plier la De Beers, on a le droit de se demander est-ce que nous ne sommes pas dans ces deux pays-là capables de le faire? Et la réponse est à l'évidence, oui. Alors, c'est bien le romantisme économique, sauf que la réalité est beaucoup plus compliquée que cela. D'abord, nous sommes actuellement dans une situation assez particulière où les matières premières, malheureusement, ne sont pas capables de faire une quelconque loi du marché pour les enceintes. La baisse de la consommation mondiale et donc de la demande mondiale fait d'eux dans une difficulté assez compliquée. La deuxième chose, c'est que, alors, et l'un et l'autre ne sont ni transformateurs et ne bénéficient absolument pas de valeur ajoutée. Et leurs pays ne sont pas consommateurs et les pays avec lesquels ils sont censés faire des échanges proches ne sont eux non plus pas consommateurs. Donc c'est bien absolument une bonne initiative politique et je crois encore une fois à l'initiative politique et je pense qu'elle est une bonne chose. Ma question c'est, quel va être le poids de ces deux pays-là face aux multinationales? Quel est le poids qu'ils peuvent avoir alors qu'ils ont très peu d'industries de transformation? Quel va être leur poids alors qu'ils ne sont pas capables de mettre en place une politique agricole incitative à leurs propres consommateurs et tout le monde sait que tout cela, c'est la difficulté la plus importante. Voyez-vous, d'accord, l'Angleterre était un pays qui n'avait aucune industrie agricole. La Pologne avait une industrie agricole très faible et la France jusqu'aux années 60 n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Il a fallu de l'initiative politique, d'abord interne, d'incitation et d'accompagnement des consommateurs, des producteurs. Et à partir de là, nous avons, ces pays-là ont mis en place un mécanisme du foncier qui est important, un mécanisme de transformation qui est important et un mécanisme d'incitation aux producteurs qui est important. Si ces pays-là, en plus de la décision, d'accord, qui, de mon point de vue, est absolument hystérique, si jamais voit le jour se faisait, était capable de les accompagner, Jamal, oui, j'en serais ravi et content.
Oui, alors justement, Daouda, l'an dernier, lorsque ces deux pays ont demandé le paiement d'une prime spéciale de $400 pour les planteurs, les deux plus grandes compagnies, Hershey et Mars, se sont tournées temporairement vers d'autres fournisseurs. Quelle est un peu la marge de manœuvre de ces pays africains face aux multinationales?
Vous avez parfaitement raison. En fait, récemment, il y a eu des rapports selon lesquels les multinationales en fait, sont hésitantes à s'acquitter de cette prime de $400 la tonne qui a été instaurée. En fait, cela reflète un peu la marge de manœuvre assez limitée du Ghana et de la Côte d'Ivoire face à ces multinationales. Je vais m'expliquer en fait. À l'heure actuelle, dans le secteur du cacao, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le Ghana et la Côte d'Ivoire contribuent à hauteur de 60% de la production mondiale, mais en fait cela veut dire également que en fait il y a 40% de la production mondiale qui échappe à leur contrôle. Et donc du coup ça donne en fait des sources alternatives d'approvisionnement en fait à ces multinationales, de telle sorte que si le Ghana et la Côte d'Ivoire décident d'augmenter les prix, bon, les multinationales ont la possibilité en fait d'aller se tourner vers d'autres pays pour s'approvisionner. Ça c'est bien. De l'autre côté aussi en fait, la réalité c'est que en fait les multinationales peuvent aussi éviter de s'approvisionner directement en fait en utilisant les circuits informels. Et donc ça permet également de pouvoir contourner cette prime spéciale qui a été introduite. Donc à mon avis, il est important bien sûr de chercher à voir comment est-ce qu'on peut, à travers une prime, augmenter un peu le revenu tiré par les planteurs de cacao. Mais en fait, il faudrait que ça soit accompagné par d'autres mesures qui permettent non seulement de contenir et de contrôler la production, mais également de pouvoir s'assurer que la demande des multinationales passe par les circuits formels.
Et justement, François Traoré, vous êtes connu hors du Burkina, justement pour la plainte à l'OMC contre les subventions américaines sur le coton, plainte à laquelle vous avez été associé il y a plus d'une décennie. Alors, même si la question des subventions est une problématique différente, l'objectif pour vous reste le même, c'est d'améliorer les conditions de vie des producteurs africains, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé pour le coton culteur burkinabé depuis?
Écoutez, ce qui est important, c'est que non, il ressort que l'importance du coton dans les revenus des producteurs n'est pas à négocier. Ce qui est clair, c'est que si nous ne voulons pas que les enfants traversent l'océan, pour que les jeunes traversent l'océan pour aller en Occident, il faut des revenus. Et le coton procure des revenus à des producteurs. Donc pour moi, c'est important que les revenus soient vraiment et rassurés, les producteurs soient rassurés d'avoir des revenus. Alors, j'ai bien écouté tout de suite celui qui vient de me précéder.
Je sais bien.
Moi, je suis pour cette union entre le Ghana et la Côte d'Ivoire parce que ça demande d'abord une volonté politique. Quand nous avons lancé l'appel contre les subventions américaines, c'est en ce moment que les ministres du commerce africain se sont mis ensemble. Et rassurez-vous, vous le savez mieux que moi, depuis qu'on a arrêté cette liste, nous, les agriculteurs, ben, on n'entend plus les ministres du commerce africain lutter à l'OMC. Ça veut dire que c'est une volonté d'abord politique. Et cette volonté politique doit être accompagnée par l'organisation des producteurs pour faire une pression politique nationale, et sinon même africaine. Mais comment vous pouvez comprendre que des gens qui produisent 60% des produits, qui est le cacao, qui ne puissent pas influer, ce n'est pas possible mathématiquement. Alors pour moi, l'union peut être une force et doit être une force. Et il faut que cette force-là soit vraiment appuyée par l'organisation des agriculteurs et pour permettre à ces agriculteurs d'avoir les revenus.
Cette union doit être une force. D'accord. Alors, Jemal Taleb, c'est plus une question de rapport de force, si on écoute tous nos intervenants, n'est-ce pas? Comment est-ce que les pays africains peuvent s'y prendre pour mieux peser sur la balance dans les négociations, justement, sur le marché mondial?
Pour peser sur le marché mondial, la question, c'est d'abord une initiative importante. La deuxième chose, c'est que non pas critère pour nos acheteurs, mais qu'on passe eux une possibilité de nouveau pour qu'ils ne soient pas facilement dans nos rangs, que nous soyons même dans un avantage comparatif assez important, de telle sorte que nous, à chaque fois, de nous menacer avec cela. La deuxième chose, qui, de mon point de vue, est sans doute la plus importante, c'est que nous devons avoir de sécurité générale, une transformation. Difficulté majeure, c'est...
Nous avons quelques soucis de connexion avec Paris, n'est-ce pas? Alors, je me tourne vers Daouda Sembène. Alors, Daouda, l'OMC est un peu une sorte de gendarme du commerce international, n'est-ce pas? Mais il est basé sur le principe du libre-échange et sur le libéralisme. Les marchés des matières premières réellement sont basés sur ce principe. Dans ce contexte, comment s'assurer que les pays africains ne soient pas lésés? On peut dire que, bon, les gens ne sont pas là pour faire du social, comme disent certains.
Oui, Abdourahmane, vous avez raison. En fait, le marché des matières premières, en fait, fonctionne selon le principe de l'offre et de la demande. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément cela qui pénalise en fait les pays africains. Si vous prenez par exemple les pays africains qui sont membres de l'OPEP, ils arrivent quand même dans un marché qui obéit à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande. Ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Le problème dans le marché du cacao et des matières premières similaires, où les pays africains sont vraiment les producteurs dominants, le problème c'est que ils ont rarement pu mettre en place des mécanismes de coordination et de collaboration qui puissent leur permettre en fait de défendre leurs intérêts communs et en non seulement ayant la possibilité de contrôler l'offre mondiale, mais en également en fait ayant la possibilité de faire en sorte que les cours puissent être à un niveau acceptable. Et ça, je pense que l'initiative que la Côte d'Ivoire et le Ghana en fait ont mis sur pied en fait est salutaire. Il faut espérer qu'elle soit élargie à d'autres pays producteurs de cacao. C'est la seule manière où par exemple ces pays pourront quand même peser sur la détermination du prix, parce qu'au-delà en fait du prix, il faut s'assurer que quand même la production reste à un niveau qui soit compatible avec le niveau de puits recherché. Et pour ça, en fait, même si le Ghana et la Côte d'Ivoire contribuent à hauteur de 60%, ce n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être ajouter d'autres pays africains tels que le Nigeria, le Cameroun, pour arriver à un niveau où ils pourront être déterminants dans la détermination du niveau de production et du prix.
Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook, François Traoré, l'interlocuteur des producteurs, c'est l'État, n'est-ce pas? Alors, comment négocier un prix qui soit acceptable pour les producteurs? Est-ce qu'il faut laisser les acheteurs internationaux venir ou il faut que l'État continue à être un peu au milieu?
Écoutez, le minimum pour gouverner un État, c'est pour l'intérêt de la population. Et l'intérêt de la population, la majorité de la population en Afrique, c'est près de 80% agriculteurs. Et dans ce domaine, si le Ghana et la Côte d'Ivoire ont 60%, les restes des pays africains peuvent constituer jusqu'à 80% du cacao. Et qu'est-ce qui les empêchera de s'entendre, les autorités? Mais l'Union africaine, les structures africaines, ils servent à quoi s'ils ne peuvent pas lutter pour les producteurs? Nous, les producteurs, nous allons nous battre, nous allons continuer à nous battre à ce qu'ils travaillent pour nos intérêts. Si le marché mondial, s'ils ne peuvent pas aller défendre nos intérêts, ils n'ont pas de raison d'aller sur le marché mondial.
D'accord.
Ils n'ont pas de raison d'aller faire une publication là-bas.
D'accord, merci beaucoup François. Restez avec nous. Voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Meshak Ruda à Kisangani en RDC qui nous dit « L'Afrique est riche en matières premières, mais ces matières sont considérées comme une malédiction. Elle est la source de conflits et même de distractions pour la population. » Jean-Marie Gouessé à Bayelsa au Nigeria écrit « Il faut commencer par un minimum de transformation locale de ces produits bruts. Pour ce faire, il faut commencer par installer les infrastructures de base et construire des usines. Pour le moment, l'Afrique est loin de réunir les conditions de transformation de ses propres ressources naturelles. » Et puis Yannick Advance à Liège en Belgique nous dit « La solution est simple, elle consiste à transformer nos ressources naturelles en produits finis et favoriser la consommation locale de nos matières premières. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. La seconde partie de Washington Forum. Après plusieurs reports en raison du Covid-19, la Mauritanie et le Sénégal se fixent fin 2023 pour l'exploitation commune du gaz naturel à cheval sur leurs frontières communes. Le pactole offshore ne va pas seulement faire des deux voisins de gros exportateurs de gaz en Afrique de l'Ouest, mais ça pourrait aussi être un coup d'accélérateur pour booster les économies locales et surtout garantir l'accès universel à l'électricité. À Nouakchott, les détails avec Mohamed Diop.
Entre les villages pêcheurs de Ndiago en Mauritanie et de Guetnar au Sénégal, en offshore se trouve le champ gazier Grand Tortue Ahmeyem. GTA. Il est découvert en avril 2015 et les réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. En février 2016, les deux pays voisins signent un accord de partage équitable.
Et c'était une décision pertinente des pays de créer une nouvelle axe de coopération qui va s'ajouter sur l'axe de développement de l'OMVS qui va aussi augmenter l'intégration économique sous-régionale et la coopération entre les deux pays frères, Sénégal et la Mauritanie.
L'exploitation confiée à Kosmos Energy et à BP, British Petroleum, devra placer la Mauritanie et le Sénégal sur la carte des pays exportateurs du gaz naturel liquéfié, GNL.
Aujourd'hui, la phase 1 va permettre d'exporter 2,5 millions de tonnes par an de GNL, en plus des productions de quelques quantités pour la production d'électricité. Mais l'objectif des GTA, c'est de produire 10 millions de tonnes de GNL par an, ce qui va représenter un chiffre très important par rapport à la production mondiale aujourd'hui qui est estimée à 300 millions de tonnes par an.
Cependant, l'exploitation prévue initialement pour 2022 sera repoussée en raison du COVID-19 avant d'être définitivement fixée pour fin 2023. L'essentiel du gaz est destiné à l'exportation. Et à long terme, chaque pays entend tirer jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus annuels. Mais des millions de mètres cubes seront réservés aux marchés locaux.
Une quantité de gaz est réservée aux productions d'électricité pour des pays. Soit le produit conjointement, soit chacun il fait la solution qui lui convient. Et ça, c'est pour la phase 1. Et pour les phases 2 et 3, les études sont en cours. Mais l'idée, c'est de prévoir aussi des quantités additionnelles qui vont permettre à augmenter les capacités des pays à produire l'électricité à partir du gaz pour avoir un accès à l'électricité fiable, plus clean et aussi moins cher.
En même temps, Dakar et Nouakchott élaborent des stratégies de contenu local pour mieux intégrer le secteur dans les économies nationales. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Merci Mohamed. Je rappelle nos invités de Paris, Djemal Taleb, économiste et avocat d'affaires depuis les îles Canaries, Daouda Sembène du Center for Global Development basé ici à Washington et depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso, François Traoré, ancien président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Alors, Taleb, la découverte de ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz suscite toujours beaucoup d'espoir, non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les populations. Si elles sont exploitées par des compagnies étrangères et transformées à l'étranger, c'est un grand manque à gagner pour les Africains, n'est-ce pas? L'Afrique a-t-elle les moyens d'inverser la tendance?
C'est toujours la continuité un peu. Sauf que préalablement, nous avons un sujet agricole qui, lui, de toute façon, est africain selon le labeur et la force de leur travail. Là, nous avons une matière première différente, c'est-à-dire que ceux qui la possèdent, qui en sont propriétaires, n'ont rien fait pour l'avoir, ne l'ont pas découverte, ne vont pas l'exploiter et ne vont pas l'exporter. Ils vont très vraisemblablement l'exploiter en partie pour produire de l'électricité. Donc, c'est toute la difficulté de les multinationales d'une richesse de cette nature. Mais en même temps, rendons justice à ces multinationales parce qu'en réalité, elles ont déployé les moyens qu'il faut pour la rechercher, pour la retrouver, les capitaux qu'il faut pour la produire. Donc la difficulté, ce sera pour que, ou en tout cas la difficulté aurait été que qu'auraient fait les États partageurs de cette richesse s'ils ne s'étaient pas entendus. Donc du coup, la question n'est pas, puisque la Mauritanie et le Sénégal sont des pays très proches, très liés, en réalité les échanges économiques, commerciaux, culturels, humains sont déjà très importants, et donc ils n'ont pas trop de difficultés à s'entendre là-dessus. La question va être après, que faire de cette manne pour que dans les années à venir, la richesse tirée de l'exploitation de cette richesse naturelle, ou en tout cas le produit financier tiré de cette richesse naturelle, va être traité et permettre à ces pays de mettre en place des mécanismes de développement durable.
D'accord. Alors, Daouda, malheureusement, on est obligé d'aller un peu plus vite. On n'a pas beaucoup de temps. Daouda, la question de la transformation des produits sur place, que ce soit des produits agricoles ou miniers, est un vieux débat. Mais en 2021, ce débat se pose encore. Pourquoi ?
Ouais, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées notables qui ont été faites dans beaucoup de pays africains en matière de mise en place d'industries de transformation locale des matières premières. Et donc, en fait, ça continue à alimenter le débat. Mais de l'autre côté aussi, si vous prenez l'exemple du cacao, par exemple, en fait, comme ça a été dit dans votre reportage, les planteurs ivoiriens et ghanaiens, en fait, récupèrent uniquement 6% en fait, des 100 et quelques milliards générés par l'industrie l'industrie chocolatière. Et donc, en fait, cela veut dire que même si on augmente les 400 dollars dont on a parlé tantôt, les planteurs pourront peut-être avoir jusqu'à hauteur de 13%. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 85% de l'industrie, en fait, qui va en dehors de là. Donc,
et ça risque d'être le cas aussi pour le gaz, pour ces deux pays, ou bien... Parce que là, les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, parlent de contenu local.
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, la différence avec le gaz du Sénégal et de la Mauritanie, c'est que c'est un projet transformateur qui va permettre aux deux pays non seulement d'accroître davantage leur intégration économique, mais ça va contribuer, en fait, à la transformation locale, en aidant, en fait, à sécuriser du gaz pour la consommation intérieure.
D'accord.
Donc ça sera extrêmement important. Et de l'autre côté aussi...
François, on est obligé malheureusement d'aller rapidement. François Traoré, des usines de transformation de produits textiles au Burkina Faso, feraient-elles bouger les lignes pour vous?
Évidemment, ça fait partie de ma lutte. Transformer les produits en Afrique est possible parce que tout le monde est passé par là. Donc moi, mon souhait serait que les producteurs soient organisés et fassent la pression pour tout faire pour que nos produits soient transformés, c'est possible. L'industrialisation de l'Afrique est une obligation, un passage obligé pour l'avenir de l'agriculture et du développement en Afrique.
Alors, Jamal, rapidement, pour revenir à cette exploitation commune du gaz à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, en tant qu'avocat, quelle lecture en faites-vous, puisqu'on a vu que dans beaucoup de cas, on a abouti à des litiges frontaliers, que la Cour internationale de justice est obligée de trancher, surtout quand des ressources naturelles sont en jeu? En une minute.
Non, le droit international en général préfigure le partage de ce genre de richesses. Et à partir du moment où les États s'entendent bien, l'application soit du droit international à la fois sur les richesses et maritimes détermine globalement la situation. Et donc les États ont, de ce point de vue-là, appliqué le droit d'un partage à peu près strict et régulier. C'est une richesse en partage.
Ça peut faire un cas d'école. Peut-on parler de cas d'école?
Évidemment, l'État l'a fait. Mais permettez-moi juste une petite parenthèse sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Et donc, pour la première fois, dans un accord de coopération avec des multinationales, nous mettons en place une vraie loi de contenu local. C'est-à-dire que la Mauritanie est en train de préparer une vraie loi de contenu local, le Sénégal aussi. Et donc, pour le coup, le partage de la richesse et surtout l'utilisation du contenu local des pays va être sans doute une donnée fondamentale qui va probablement révolutionner la chose, et c'est ce qu'il faut souhaiter. Rarement dans les États précédents nous avons mis en place une obligation d'un contenu local, c'est-à-dire l'utilisation de ressources et de richesses naturelles locales du pays comme vecteur de croissance et d'exploitation des richesses, et ça je trouve ça intéressant. Pour le reste, les deux pays ont été assez sages et l'utilisation du droit international a incontestablement aidé.
Alors, à ce que le partage soit équitable. 30 secondes, l'objectif finalement pour les Africains, c'est de faire bloc, n'est-ce pas, face aux multinationales et...
Effectivement, c'est l'objectif, parce que les pays africains se rendent compte que c'est la seule manière de maximiser leurs intérêts. Encore une fois, il est important quand même d'étendre ce bloc autant que possible pour qu'on puisse en fait avoir les niveaux de production et de prix désirés. Mais permettez-moi de terminer également, en fait, quelque chose qui sera important, ce sera de développer le commerce intra-africain.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment important.
Peut-être qu'on pourra y revenir une prochaine fois. Merci. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com et bien sûr sur notre page Facebook. Je n'oublie pas bien sûr toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.